L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, à l'occasion de la tenue du Forum économique international de Saint-Pétersbourg du 14 au 17 juin, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir des intervenants ayant pris part à cet événement mondial auquel pas moins de 132 pays étaient représentés. Avec eux, nous allons traiter de plusieurs questions concernant la coopération entre l'Afrique et la Russie et ses perspectives à l'approche du sommet Russie-Afrique qui se tiendra du 26 au 29 juillet également à Saint-Pétersbourg. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le premier intervenant est le président de la Chambre de commerce de l'industrie ivoiro-russe, M. Henri Douetaï, qui nous a fait l'honneur de nous accorder un entretien exclusif pour exposer et expliquer pour la première fois la genèse et les objectifs de son manifeste pour la création d'une chambre de commerce et d'industrie Russie-Afrique. Écoutons-le. C'est un manifeste que vous avez écrit et dans lequel vous appelez à créer ou à la création d'une chambre de commerce et d'industrie Russie-Afrique. Vous avez certainement, Monsieur Douet, visité le forum et vous êtes l'un des invités aussi pour le forum Russie-Afrique en fin juillet. Pouvez-vous nous expliquer la genèse de ce manifeste et pourquoi cette chambre de commerce d'industrie Russie-Afrique est-elle nécessaire?
Merci pour la question. Vous savez, depuis 2006, j'ai sillonné les États africains et aussi la Russie et j'ai constaté qu'il n'y avait pas tellement de développement dans le commerce entre l'Afrique et la Russie. Et je me suis dit, pour que la Russie puisse s'implanter en Afrique, il serait bon qu'elle le fasse à travers le commerce et l'industrie. Ça apportera plus de fruits que tout.
D'accord. Alors, dans le document qui était extrêmement important, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir et je vous remercie de m'avoir fait l'honneur justement de le diffuser pour la première fois. Vous faites un constat très très précis, sans concession, de l'état justement de cette coopération commerciale et industrielle entre la Russie, cette faiblesse, et vous soulevez pas mal de problèmes, notamment la méconnaissance presque totale des entreprises russes de ce qui se passe sur le terrain en Afrique. Certes, des problèmes qui existent, comme ils existent partout, oui. Parce qu'il faut toujours faire face déjà au fait qu'il faut harmoniser les façons de voir, même au niveau juridique, mais aussi c'est que elles sont complètement ignorantes des potentialités et du potentiel de développement qu'elle pourrait réaliser en Afrique. Alors, pouvez-vous justement nous faire un petit topo sur cette situation?
Vous savez, l'Afrique ne connaît pas tellement la Russie. Et la Russie aussi ne connaît pas tellement l'Afrique. Il serait bon qu'à travers cette connaissance, qu'ils puissent arriver à collaborer, à coopérer dans le domaine du commerce. Vous savez que la Russie possède beaucoup de potentialités dans tous les domaines, comme aussi l'Afrique possède aussi des richesses dans tous les domaines. Donc, il serait bon qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir développer. L'un apportera peut-être la technologie, l'autre amènera aussi ses matières premières qu'on pourra développer, qu'on pourra transformer sur le sol africain. Donc, j'ai dit, il est bon de se décomplexer.
Se décomplexer, c'est très important.
Se décomplexer. Il faut que les ressortissants russes apprennent à connaître l'Afrique. Qu'on vit vers ça, l'Afrique, les ressortissants africains comprennent à connaître l'Afrique. Parce que ces deux continents, j'appelle le continent la Russie parce que c'est un pays qui équivaut à un continent. Ces deux continents peuvent travailler ensemble et s'aider mutuellement et arriver à faire des réalisations qui permettraient à tout un chacun de gagner sa quote-part. Et si je dis que il est bon de faire la transformation des biens, des richesses africaines dans le continent africain, ce n'est pas pour rien. Ça permettra aussi à notre population d'avoir du travail. Si vous prenez, par exemple, je dis un exemple, si vous prenez les fruits et que vous arrivez à les transformer, que vous mettez des usines qui transforment ces fruits, vous permettrez aux Africains d'avoir un travail et de ne pas se rester inutile. Et vous permettrez aussi à l'Afrique d'avoir des usines, des entreprises. Il ne s'agit pas de venir prendre le bien, il ne s'agit pas de venir prendre les richesses, les amener, comme on le dit,
dans un cadre de partenariat où ils vont gagner aussi.
Aussi, faut chacun gagne. Tu m'amènes la technologie, moi je t'amène la matière première, mais tu transformes ma matière première, quand tu les auras transformées, je peux envoyer ces matières premières dans ton pays, et tous les deux, nous gagnons.
D'accord. Alors, Monsieur Doué, quand vous dites qu'il faut que la Russie se décomplexe, parce que c'est, vous soulevez quand même une question très importante, parce que souvent, les pays, beaucoup de pays qui aimeraient d'ailleurs coopérer avec l'Afrique, pensent que l'Afrique est divisée en secteurs, et chaque secteur et la chasse gardée de son ancienne puissance coloniale. Et en fait, ils pensent que, en général, il faut passer par eux. Et donc, et comme les relations ne sont pas bonnes, on ne pourrait pas faire quoi que ce soit dans ce continent.
Il est vrai que, au traité de Berlin, ils ont divisé l'Afrique. Sans l'Afrique.
Sans l'Afrique, ouais.
Ils ont divisé l'Afrique sans l'Afrique. Et ils se sont permis de partager l'Afrique. Et je dis que cette Afrique que nous aimons très bien, n'appartient à personne. Elle appartient aux Africains. Elle appartient aux Africains. Il faut qu'ils laissent les Africains décider de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ont besoin. Il ne faut pas qu'eux, ils imposent de ce qu'ils veulent avoir par rapport à ce que veut l'Africain. Il faut que les uns et les autres comprennent ça.
D'accord. Bien. Alors, il y a des organisations régionales africaines qui ont, je ne sais pas, je pars sous votre contrôle, et qui ont la réputation, disons, d'être très, très arrimées aux anciennes puissances coloniales, comme la France en particulier. Je prendrai aussi la question du franc CFA. Est-ce que cette situation ne peut pas empêcher les partenaires russes à aller peut-être? Il y a beaucoup peut-être qui seraient un peu réticents par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait briser cette glace-là et aller de l'avant?
Moi, je pense que nos anciens partenaires resteront nos partenaires. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont nos partenaires. Il faut qu'ils laissent la porte aux autres.
Absolument.
Ils laissent la possibilité aux Africains de choisir un peu ce qu'ils veulent. Ça. Et qu'il n'y a pas de jaloux. Ils restent toujours partenaires. Mais il faut qu'ils comprennent l'évolution des choses. On ne peut plus rester sous domination de quelqu'un. On veut être nous-mêmes. Mais sans oublier nos anciens partenaires.
D'accord. Et est-ce que le ministère des Affaires étrangères russe mène justement, comme vous l'expliquez d'ailleurs dans votre manifeste, est-ce que le travail qu'il fait d'information à travers les pays africains, des potentialités que présentent les industries et les entreprises russes, mais aussi la partie, le reflet miroir de ça, c'est-à-dire informer les entreprises russes des potentialités qu'il y a en Afrique. Est-ce que le travail est fait est suffisant ou vous souhaitez qu'il soit encore plus important?
Je pense que les ambassades russes qui sont en Afrique doivent faire aussi beaucoup d'informations sur le pays pour que les Ivoiriens, les Africains comprennent la situation. Il faut qu'ils ouvrent un peu leurs ambassades pour avoir des visas pour permettre aux Africains de se rendre en Russie et prendre contact, voir les réalités de la Russie. Il faut ça. Et nos ambassades essayent de permettre aux Russes de venir chez nous, sur notre continent. On ne ferme pas les portes. aux Russes.
D'accord. Alors, le président Poutine, ça fait une dizaine de jours, a demandé donc au gouvernement d'augmenter massivement les plans de coopération scientifique et technologique avec les pays africains. Et dans sa conférence de presse aussi, et il avait indiqué que les entreprises russes donc doivent coopérer massivement et ne pas faire ce que les Occidentaux ont fait, c'est-à-dire penser, comme vous le disiez tout à l'heure, à transformer localement et à transférer la technologie, le savoir-faire, c'est-à-dire former, transférer la technologie pour que les Africains puissent transformer chez eux leurs matières premières et produire les produits finis chez eux. Alors, comment vous réagissez à cette déclaration ?
Mais elle est bonne, elle est bonne. Si les Russes comprennent ça, c'était une bonne affaire. Transformer, transférer et faire tout ce possible pour qu'il y ait une coopération intense entre l'Afrique et la Russie.
Donc, vous faites appel à une chambre d'industrie et de commerce Afrique-Russie. C'est-à-dire, c'est comme une espèce d'un seul bureau d'information ou d'un seul comptoir unique où tous ceux qui sont intéressés par la coopération russo-africaine où ils peuvent aller tout de suite, il y a toutes les portes et l'information dont il a besoin.
Parce que il y a des chambres consulaires qui s'occupent de tout. Et là, moi, je vais placer l'axe Russie-Afrique, Afrique-Russie. Que tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique, en Russie, doivent passer par cette chambre-là. Mmh. Et vice versa. Qui n'ont pas à chercher de gauche à droite.
Une dernière question. Le sommet Russie-Afrique, je crois qu'il serait la meilleure occasion justement de diffuser massivement ce manifeste et cet appel du cœur à une coopération organisée, intense et centralisée entre la Russie et l'Afrique.
Oui, nous avons écrit aux ambassades de la Russie en Afrique et aux ambassades africaines en Russie pour les susciter à pousser les uns les autres à cette idée pour que, pendant le sommet, on puisse annoncer la création de cette chambre de commerce et d'industrie Russie-Afrique.
C'était le président de la Chambre de commerce et d'industrie ivoiro-russe, M. Henri Douetaï. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Le prochain intervenant est le docteur Souleymane Diarra, chercheur malien en finance. Avec lui, nous évoquerons la coopération économique entre l'Afrique et la Russie et ses perspectives dans le cadre du thème central du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, à savoir la souveraineté économique pour un développement juste. Écoutons ses réponses. Ma première question, Monsieur Diarra, vous avez assisté hier à la conférence de presse du président de la Fédération de Russie. Et lors de cette conférence de presse, il a fait quand même un accent très fort sur la coopération entre la Fédération de Russie et les pays africains. Alors, comment vous voyez le discours? Est-ce que vous avez ce sont discours en général, mais en particulier sur ce qu'il a dit concernant la coopération avec l'Afrique?
Bon, tout d'abord, je tiens à remercier le pays hôte, c'est-à-dire l'organisation de cet événement de grande envergure, qui est un événement international qui regroupe presque plus de 170 000 participants. Ce que je peux retenir du discours du président de la Fédération de Russie, son Excellence Vladimir Poutine, c'est un discours de rappel, je peux dire, c'est un discours de réveil, de conscience, c'est un discours qui rappelle le peuple africain à prendre son destin en main. C'est un discours très, très instructif, car il veut que les donnes changent. Il ne veut plus que l'Afrique soit vue comme un continent qu'on peut venir extraire ou bien soutirer nos ressources tout dans une inégalité qui n'est pas juste, avec bien sûr la complicité de certains de nos dirigeants. Je pense que M. Poutine veut faire comprendre à l'Afrique qu'il est temps d'assumer son indépendance, sa souveraineté. Il est temps pour l'Afrique de tracer les chemins de son propre développement et il est temps pour les dirigeants néocolonialistes de savoir que l'Afrique n'est plus un continent qu'on peut gérer de la même manière qu'on le gérait il y a de cela une décennie. Il veut en un mot rappeler le continent africain à assurer sa souveraineté, à prendre son destin en main, à assurer son avenir et à penser aux vrais enjeux qui menacent le continent africain.
D'accord. Alors, justement, vous mettez l'accent sur une chose extrêmement importante, qui est la souveraineté économique, et qui est le corollaire de la souveraineté politique. Il ne peut pas y avoir de souveraineté politique quand on n'a pas une souveraineté financière et une souveraineté économique. Et comme l'a dit plusieurs fois le président Poutine, la souveraineté ne peut pas se saucissonner. Pour être souverain, il faut être souverain dans tout. Dans tous les domaines. Alors, le Forum de Saint-Pétersbourg, justement, sa thématique centrale, c'est celle-là. D'avoir un développement souverain pour un développement juste et des relations équitables. Alors, qu'est-ce que vous inspire ça, justement? Vous avez déjà commencé à en parler. Et comment voyez-vous pratiquement, pour les pays africains, la nécessité, justement, de venir à cette souveraineté qui va permettre un développement intégré dans les pays pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté, sortir du sous-développement dans lequel on les a maintenus malgré eux.
Bon, tout d'abord, je pense que le président Poutine veut rappeler à certains dirigeants qui se croient chefs de cette planète. Il veut rappeler également aux dirigeants africains que l'Afrique engendre d'énormes ressources. Et cette souveraineté ne peut pas penser, ne peut aller sans pour autant que nous ayons à tracer notre propre chemin. Ce développement et cette souveraineté ne peut pas aller tant que nous-mêmes nous ne cherchons pas à en tirer profit de la richesse de notre vieux continent. Et pour accéder à cette souveraineté, je pense que les dirigeants africains doivent réfléchir tout en songeant à l'intérêt supérieur de leur nation. Car comme on a l'habitude, la coutume de le dire, un pays n'a pas d'amis. Chaque pays vit ses intérêts. Et pour être souverain, comme vous l'avez si bien dit, il faut être souverain dans tout. Bien sûr, un pays ne peut pas vivre dans l'autarcie. On a besoin des partenaires. Et il va falloir que ces partenaires soient des partenaires fiables. Un partenariat qui sera fondé sur un partenariat équitable, c'est-à-dire un partenariat gagnant-gagnant, comme notre ministre de la Défense, Son Excellence Sadio Camara, a l'habitude de le dire. Il dit que la Russie est un partenaire fiable. Et je pense que pour que nous puissions accéder à cette souveraineté, il est grand temps qu'on trace notre propre chemin, qu'on établisse les termes du contrat en fonction des préoccupations de nos États. Car les États n'ont pas les mêmes, les États n'ont pas les mêmes réalités. Est quelque chose qui peut bien réussir dans un État peut échouer dans un autre. Donc, il est vraiment important, en fonction de la réalité de nos différents États du continent africain, d'établir des contrats avec des partenaires sincères, des partenaires qui ne cherchent pas à piller le continent, comme beaucoup l'ont fait il y a des années de cela. Donc, je pense que ce forum est encore l'opportunité, l'occasion pour les pays africains de se ressaisir, de songer à l'intérêt supérieur, à l'intérêt suprême de leurs États, de prouver leur véritable souveraineté. Car la souveraineté ne doit pas exister que de nom. La souveraineté, elle doit être assumée, affirmée et connue de tous. Raison pour laquelle je saisis cette occasion pour remercier les autorités actuelles de la République du Mali, qui est ma chère patrie. Ces autorités, je pense qu'ils ont tracé un chemin, ils ont montré à tout un continent, c'est-à-dire à au monde entier, même si je peux me le permettre.
Absolument, c'est qu'on pouvait... Oui. Vous pouvez vous le permettre sans problème.
Ok, ok. Donc, ce qu'on ne pouvait pas imaginer il y a de cela quelques années. Donc, je pense que l'exemple malien est un exemple à suivre pour tout le continent, pour que le continent africain puisse accéder à la souveraineté tant souhaitée par son peuple. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on suive l'exemple malien, qu'on suive le leader, c'est-à-dire le libérateur, et puis le stratège, son excellence, colonel Assimi Goïta de la République du Mali.
D'accord. C'est... Donc, par rapport à ça, bon, je vais y revenir quand même à la situation du Mali après. La souveraineté économique, les Africains depuis longtemps, ils le disent, mais disons que le système de la mondialisation, même avant la mondialisation, n'a pas donné vraiment beaucoup de chance aux pays africains de pouvoir après. Alors, mais c'est moi j'ai reçu beaucoup de gens qui m'ont dit que il faut même aller jusqu'à constitutionnaliser l'interdiction d'exporter les matières premières. Il faut que les matières premières soient transformées dans les pays africains, avec des technologies et avec la main-d'œuvre africaine. Comment vous voyez cette chose? Et est-ce que vous pensez qu'un partenariat avec la Russie, mais pas uniquement avec la Russie, il y a d'autres pays qui sont disposés à aller dans ce sens, il y a la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Iran, la Turquie, peuvent aider dans ça? Et est-ce que le forum, ce forum 2023, vous donne une inspiration d'avant-goût de ce qui pourrait être développé dans le cadre gagnant-gagnant?
Bon, je pense que je soutiens cette idée. L'Afrique ne doit pas seulement être un continent de consommation. Nous engorgeons d'énormes ressources naturelles. On a beaucoup de matières premières. Je prends l'exemple sur le cas du Mali. Le Mali est un pays qui a beaucoup de richesses, qui engendre beaucoup de ressources minières. Raison pour laquelle je profite également de cette occasion pour remercier et encourager notre président, son excellence Assimi Goïta, président de la transition, qui d'abord a initié la construction d'une usine de raffinerie. Imaginez le Mali, qui est un grand producteur d'or en Afrique, ne possédait pas même une seule usine de raffinerie. Donc,
De
raffinage d'or. Donc, la matière première, elle était soutirée. On n'avait qu'un petit pourcentage. Et le reste, la part la plus importante était exportée. Donc, je pense qu'il est temps pour les pays africains, pour qu'on puisse accéder à cette souveraineté économique, que nous ayons au moins la capacité de transformer nos matières premières en vue de les revendre. C'est dans ce cadre que nous pouvons vraiment faire développer le continent, accéder à cette souveraineté économique. Et je pense que l'exemple est plus ou moins suivi par certains de nos États, comme par exemple le Mali, qui, à côté de l'or, Le Mali occupe, disons, une position importante dans le monde avec la production du coton. Donc, on a même commencé à transformer le coton malien, qui sera plus exporté en matière première, donc qui sera presque exporté en produit fini ou semi-fini.
D'accord. Bien, alors nous en venons maintenant à la situation au Mali. Il y a les autorités maliennes ont demandé à l'ONU de retirer toutes les forces de la MINUSMA, c'est-à-dire de la mission des Nations Unies pour la sécurité au Mali. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a motivé, à votre avis, cette décision? Et en retirant, parce qu'on nous a vendu pendant des années que c'est cette MINUSMA qui avait la mission d'établir la paix et de maintenir la paix dans le pays, est-ce que ce départ ne va pas créer de problème? Et que pensez-vous? Bon, je vous laisse d'abord répondre à cette question, après...
Ok, je pense que ce départ souhaité par les autorités maliennes, je peux dire l'idée fondatrice n'est pas venue des autorités. Je pense que c'est une aspiration du peuple malien qui trouve que la MINUSMA n'arrive plus à jouer son rôle d'intervention au Mali. La MINUSMA, au lieu qu'elle soit une mission de protection des populations, la population est délaissée à son sort. Et au lieu que la MINUSMA contribue à rétablir la paix et la sécurité au Mali, on a vu que la MINUSMA se permet de se doter d'autres missions qui sont méconnues par la population malienne et seul Dieu sait à quel intérêt. Raison pour laquelle les autorités maliennes, je peux le dire avec le soutien du peuple malien, souhaitent aujourd'hui qu'il est temps de mettre fin à cette mission. Et d'ailleurs, je profite pour vous informer que cette même mission de la MINUSMA a fait un rapport frauduleux, tout en essayant de dénigrer l'image des forces armées de sécurité à travers l'événement de Moura. Donc, je maintiens au discours du ministère de l'armée, le ministère de la Défense, le ministère de l'armée des anciens combattants. Les militaires maliens, les forces armées et de sécurité maliennes sont des militaires professionnels. Et en aucun cas, les Maliens, c'est-à-dire les militaires qui sont chargés de la sécurité des personnes et de leurs biens ne peuvent outrepasser leur mission. Ils ne peuvent pas commettre d'exactions. C'est une armée professionnelle qui a eu à le prouver sur multiples plans. C'est-à-dire, il est à reconnaître que la montée en puissance de nos forces armées de sécurité n'est plus un débat. C'est une réalité et je pense que le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, avec son ministre de la Défense, Sadio Camara, sont déterminés à éradiquer ces problèmes d'insécurité, ces problèmes de terrorisme sur le territoire malien. Bien sûr, avec l'apport de la Fédération de Russie. Parce que nous, actuellement, aujourd'hui, nous pouvons dire Dieu merci, l'armée malienne a à sa possession tous les équipements militaires pour pouvoir opérer de façon autonome et sur tout le territoire malien. Donc, ça, c'est déjà un grand pas, ça, c'est salutaire et ça, c'est apprécié à sa juste valeur par le peuple malien.
C'était le docteur Souleymane Diarra, chercheur malien en finance. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Notre troisième invité est Xavier Moreau, président fondateur du Centre d'analyse politico-stratégique Stratpol. Nous allons lui demander son avis sur le niveau de participation internationale à ce forum, la dynamique géopolitique et géoéconomique émergeant dans le monde, notamment la place des BRICS dans cette nouvelle architecture à l'approche du sommet de cette organisation qui se tiendra en août en Afrique du Sud. Ma première question, Quelle est votre impression? Est-ce que la Russie est un pays isolé sur le plan international?
C'est pas l'impression qu'on a quand on arrive ici. On a une impression à la fois, on va dire, d'être très cosmopolite, on peut dire. Et puisqu'on voit à peu près de tout, hein, en dehors des Occidentaux. Et puis, surtout, on retrouve cet esprit, ce que j'ai appelé l'esprit de Saint-Pétersbourg, de l'année dernière. Le nouvel esprit de Saint-Pétersbourg. Pour vous donner, pour vous mettre en perspective, le premier forum économique russe, il a eu lieu en 1997 à Londres. Et on peut dire que jusqu'à la fin des années 2000, la Russie essayait de trouver sa place dans on va dire, le nouvel ordre mondial tel qu'il avait été défini, voire imposé par Washington. À partir de 2010, hein, à partir de la rencontre de Munich en 2007, où Vladimir Poutine fait son fameux discours, la Russie a commencé à prendre une autre voie, ou plutôt à essayer de trouver sa propre voie. Et mais c'était toujours assez lent, elle oscillait entre le monde, encore une fois, tel qu'il était défini par Washington, et puis ce nouveau monde en gestation qui est celui de la multipolarité, non seulement du point de vue politique et de la diplomatie, mais également du point de vue des échanges. Et on a eu l'impression, et c'était plus qu'une impression, en 2022, donc quand il y a eu ce forum économique, que la Russie avait trouvé enfin sa voie. Et aujourd'hui, et à cette époque-là, et comme aujourd'hui, il n'était plus question de copier ou de singer plutôt le modèle occidental, mais de suivre sa propre voie en utilisant le fait que, eh bien, il y a un nouveau pôle de croissance qui est l'Asie, vers lequel il faut se tourner. D'ailleurs, on pourra y revenir, mais c'était la grande erreur une des grandes erreurs des Occidentaux lorsqu'ils ont mis leurs sanctions, c'est de s'imaginer, je vous renvoie au titre de la presse, y compris française, il y a un an et demi, que la Russie ne trouverait pas de clients alternatifs notamment pour ces matières premières. Ce qui a été, c'est complètement faux. D'ailleurs, la presse anglo-saxonne, il y a pas tellement longtemps, je crois que c'était le Financial Times, soulignait que l'Inde, en fait, se dispute avec la Chine pour acheter le pétrole russe. Donc voilà un peu l'atmosphère dans laquelle on se trouve, une atmosphère très pionnière, qui me plaît beaucoup et qui me rappelle, finalement, c'est la continuité de ce qu'on a observé, avec une certaine excitation, on peut le dire, il y a un an et demi au Forum économique de 2022.
D'accord. Donc, une question très importante. Je rappelle qu'il y a 132 pays qui sont présents à ce forum. Il y a des délégations officielles. Probablement, le président algérien et sa délégation seraient présentes aujourd'hui ou plus tard demain. Et alors, le thème de ce forum, c'est la souveraineté pour le développement, pour un développement juste et interdépendant, mais juste entre États-nations. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette thématique et est-ce que on est en train d'enterrer la globalisation qui est née après le démembrement de l'Union soviétique?
Je pense effectivement que le nouvel ordre mondial qui avait été annoncé par George Bush père, je crois que c'est en 1990, est en train de disparaître. En fait, ce nouvel ordre mondial, il ne concernera bientôt plus que les pays occidentaux qui acceptent d'ailleurs de le subir. Hein. C'est vraiment la servitude volontaire de la Boétie.
C'est Jeannette Yellen qui a dit, ça fait une dizaine de jours, nous allons faire une mondialisation entre amis.
Voilà, donc en fait, c'est-à-dire l'Occident est face au reste du monde. Et je pense aussi qu'on le voit dans la nature des structures qui sont mises en place. Même l'organisation de Shanghai qui est plus structurée que les BRICS, hein, il y a tout un enjeu de structurer en fait les BRICS parce que à l'origine c'est plutôt un rendez-vous entre amis. Et puis là c'est quelque chose qui a pris énormément d'importance, que beaucoup de pays veulent rejoindre, précisément parce qu'il n'y a pas de volonté de transformer une union économique en un instrument politique. Ce qu'est l'Union européenne, ce qu'est l'OTAN. Donc là, on a une structure militaire qui devient un instrument politique. Et donc, ce qui représente finalement cette mondialisation désormais malheureuse auquel nous avons affaire en Occident. Et je crois que ce dont on soif les pays d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, d'Amérique du Sud ou d'Asie, c'est le doux commerce de Montesquieu et sans la contrainte politique, sans qu'on impose à ces pays un ordre du jour, y compris dans les choses les plus intimes, comme par exemple les mœurs. L'Arabie saoudite veut rejoindre les BRICS parce qu'elle sait bien qu'on ne lui imposera pas le modèle occidental, surtout celui qu'on voit aujourd'hui, qui est rejeté par, en gros, les deux tiers de l'humanité.
D'accord. Alors, Il y a beaucoup d'entreprises russes qui sont présentes donc à ce forum et de très très hautes technologies dans la numérisation, dans la fabrication des drones, même la voiture. J'ai même eu l'occasion de visiter le 4x4 du Lada. Il n'a rien à envier aux autres qui sont fabriqués ailleurs. Ce qui est très important, depuis 2019, le président Vladimir Poutine avait dit que la Russie était entièrement à la disposition de tous les pays, en particulier africains, pour pas uniquement à aider à développer des industries ou des technologies, même au transfert des technologies. Et ça fait une dizaine de jours, il a même pris une décision d'augmenter massivement les accords de coopération en formation dans l'ingénierie et dans les sciences fondamentales. Est-ce que ça n'est pas un début, à votre avis, pour un changement de paradigme complet et qui serait bénéfique justement aux pays du Sud qui veulent être souverains dans leur territoire, mais aussi avoir les moyens de transformer leurs matières premières chez eux?
Je pense que oui, c'est une vision du développement qui est complètement différente. Dans le nouvel ordre mondial, et même avant, en fait, l'apparition de ce nouvel ordre mondial, au début des années 90, l'idée, c'était d'avoir des pays qui soient des clients ou des fournisseurs de matières premières et une domination industrielle qui soit assurée par effectivement l'avance incontestable qu'avait pris l'Occident dans ce domaine-là, et également les pays d'Asie, hein, puisque par exemple des pays comme la Corée du Sud, quand la Corée du Sud se retrouve en 1955 à la fin de la guerre de Corée, c'est que ce soit la Corée du Sud et du Nord, c'est un véritable désert. Et là, la technologie, eh bien, a permis à ces pays d'atteindre un niveau de développement impressionnant, alors qu'ils n'ont pas de matière première. Donc, je pense que effectivement, le transfert de technologie permettra un développement harmonieux et finalement, à mon avis, est la véritable solution contre les vagues d'immigration qui sont liées notamment, bien sûr, à la guerre, mais aussi en permanence à la pauvreté. Donc, le développement de ces pays permettra de stabiliser les vagues de migration qui sont très déstabilisantes. On le voit en Europe et à des pays qui possèdent des matières premières, de les transformer. Et voilà, donc on n'en est qu'au début, mais sur l'idée, en fait, c'est effectivement un changement de paradigme.
Bien, alors par rapport à ce que vous venez de dire, je vais bifurquer sur une question de monnaie. Le président Emmanuel Macron, à la surprise générale, a fait apparemment une demande pour assister au sommet des BRICS. Donc on pourrait penser que, comme l'a déclaré Madame Zakharova, que c'est un poisson pilote qui a été envoyé pour savoir qu'est-ce qui va se dire dans ce sommet. Mais il me semble aussi que la question du franc CFA se pose pour la France, parce que il y a l'idée d'une monnaie commune des BRICS et qui sera élargie à tous les pays qui seront soit intégrés par la suite ou qui acceptent d'échanger dans cette monnaie-là. Alors, comment voyez-vous donc cette demande? Qu'est-ce que c'est que cette demande? Est-ce que c'est raisonnable?
Disons que je pense, alors, du point de vue purement de la politique française intérieure, je pense que Emmanuel Macron a enchaîné ces derniers mois des échecs diplomatiques cuisants. Vladimir Poutine ne le prend plus au téléphone. Son voyage en Chine, qui a été saboté par son ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, hein, qui a menacé la Chine, qui a mis en garde la Chine 10 jours avant le voyage de Emmanuel Macron. Hein, c'est quand on connaît précisément les mentalités en Asie en général et en Chine en particulier sur le problème de la perte de face. Donc c'était une manière de saboter en fait le voyage d'Emmanuel Macron. Et il y a qu'à voir comment s'est passé la rendez-vous avec. En plus, il était venu avec Madame von der Leyen. C'était un véritable échec. Ensuite, sa tournée en Afrique a été également un échec. Il s'est ridiculisé. Les Africains lui ont bien fait comprendre que c'est pas parce que le PIB était bien inférieur que les États africains n'étaient pas des États souverains. Donc, je pense qu'il s'agit peut-être de mettre fin à une succession d'échecs dans sa politique diplomatique. Après, il y a aussi du réalisme, c'est-à-dire que où est la croissance de demain ? l'économie du 21e siècle sera asiatique. Hein. C'était une tribune très intéressante qui avait été publiée en octobre 2019 Global McKinsey Institute, quelque chose comme ça. Et donc, qui disait que le 21e siècle, économiquement, serait asiatique. Donc, l'Asie va devenir le moteur économique. Donc, il faut aller chercher la croissance là où elle est, là où elle sera. Et c'est évidemment un moyen pour Emmanuel Macron d'essayer de se placer. Mais est-ce qu'il a vraiment un projet politique? Je crois pas. Je crois plutôt qu'on est toujours avec Emmanuel Macron dans la communication. Donc, effectivement, il aimerait bien être vu comme le premier pays du G7 à être invité au BRICS. Mais est-ce qu'il y a un projet derrière? J'ai peur qu'il n'y en ait pas. Enfin, l'avenir nous le dira. Et puis, est-ce que la Russie va accepter que...
Justement, la réponse de Madame Zakharova était très claire. Elle a dit, mais il faut d'abord arrêter de prendre par le haut les pays des BRICS et puis définir qu'est-ce que vous voulez exactement.
Ben voilà, il faut qu'ils définissent. Si c'est pour arriver qu'ils fassent une nouvelle leçon de morale en appelant les quatre autres BRICS à ne plus soutenir la Russie, bon, ça va fatiguer tout le monde et puis il va repartir comme d'habitude et ce sera un nouvel échec diplomatique. J'ai du mal à commenter sérieusement les décisions d'Emmanuel Macron. Même à une époque, j'ai voulu croire en sa bonne foi, notamment bien tout au début de son premier mandat, lorsqu'il a invité Poutine à Versailles pour commémorer la visite de Pierre le Grand en 1717 à Louis XV, au jeune Louis XV. Je me suis dit, tiens, après tout, peut-être que je l'avais sous-estimé, peut-être qu'il a une vision. Et en fait, non. Non. Quoi qu'il arrive, les ordres sont donnés par Washington. Et d'ailleurs, même si l'Afrique du Sud l'invite, si Washington donne l'ordre de ne pas y aller, il n'ira pas. Donc, c'est pas la peine non plus d'en attendre grand-chose.
D'accord. Alors, une dernière question, parce que je sais que vous êtes très occupé. À midi, je crois que vous avez déjà un rendez-vous. Et merci d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation.
C'est toujours un plaisir.
À pied levé. Donc, une dernière question. La situation actuelle globale et à l'aune de cette effervescence justement de l'économie eurasiatique et des BRICS, comment vous voyez l'évolution et à partir de ce qui se passe actuellement en Ukraine?
Je pense que plus le conflit en Ukraine se prolongera, plus le décalage entre la vision qu'ont les Occidentaux de la réalité économique mondiale va s'accentuer. Et d'ailleurs, on voit très bien comment ça s'est passé au début. Les Occidentaux ont sous-évalué la puissance de l'économie russe, sa diversification, le poids de l'industrie dans l'économie russe, le fait qu'elle s'était dotée d'instruments, notamment de systèmes de messagerie bancaire performants dès 2014. Pareil pour les systèmes de paiement. Et surtout, ils ont sous-estimé le fait que désormais, il y avait des économies dans le monde qui étaient capables de devenir des clients alternatifs à l'Occident. Ça, c'est surtout en Europe que ça a été sous-estimé. Et je pense que ce décalage va provoquer un choc de réalité, peut-être plutôt qu'on l'imagine en Europe. L'Europe a survécu, par exemple, au dernier hiver, uniquement parce que les entreprises ont été débranchées, donc chute de la production, et puis parce que l'hiver a été doux. Mais ça veut dire qu'en gros, aujourd'hui, Bruno Le Maire doit faire la danse du soleil pour qu'il fasse chaud l'hiver prochain. Sinon, ils vont être obligés d'acheter énormément de gaz, y compris de gaz russe, hein, un prix exorbitant. Et là, ça va remettre en cause les modèles, le modèle occidental, parce qu'encore une fois, les Russes ont trouvé des partenaires fiables, alternatifs. Et d'ailleurs, il n'est pas dit que les Russes, même si un jour, même si le conflit s'arrêtait demain, auraient envie de refaire des Occidentaux, notamment de l'Europe occidentale, son partenaire privilégié, parce que ce n'est pas un partenaire faible. Et là, c'est l'homme d'affaires qui vous parle. Ce que vous cherchez dans les affaires, même quitte à faire des réductions, c'est un partenaire fiable. Et aujourd'hui, l'Occident, essentiellement l'Europe occidentale, a perdu ce statut de partenaire fiable, au contraire des pays des BRICS, en partie, et de ceux qui vont rejoindre les BRICS, hein, parce que c'est quand même ça auquel on assiste. Il y a une quinzaine de pays. Pas plus tard qu'hier, l'Égypte a annoncé qu'elle était candidate. Donc, en fait, il va se créer une écosphère dans le monde, à l'intérieur desquelles, et là, on revient à la question précédente sur Emmanuel Macron, les ambitions politico-économiques, et c'est bien le problème de l'Occident, c'est que ces ambitions sont politico-économiques, au lieu d'être simplement économiques, eh bien, vont se trouver mises à mal. Ça c'est évident.
C'était Xavier Moreau, président fondateur du Centre d'analyse politico-stratégique StratPol. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Certains États européens, comme la Finlande, songent désormais à ne plus aider les pays africains qui soutiennent la Russie. Une attitude qui témoigne d'un profond mépris pour le continent, a déclaré à Sputnik Ali Di Agalivele, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali. Et le Sénégalais Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, souligne que les pays du continent peuvent évaluer leurs intérêts et choisir leurs partenaires eux-mêmes. Écoutons notre entretien avec ces deux personnalités. Monsieur Ali Di Agalivele, trouvez-vous légitime ces pressions de la part des Occidentaux envers l'Afrique?
L'Afrique traverse un moment très, très, très délicat, un moment vraiment décisif de son histoire. Et on doit s'assumer et on doit se faire respecter. Et les pays qui viennent en aide à l'Afrique doivent savoir que ces aides ne sont pas fortuites et ces aides ne sont pas gratuites. Et quand ces aides viennent en Afrique, il y a des choses qui ne sont pas précises, qui ne sont pas dites. Et les mesures de pression et de sanctions, comme ils ont l'habitude de le faire, et ne donnent pas forcément le résultat attendu. Et nous serons très heureux même que ces mesures et puissent couper même certaines aides, parce que ça va permettre à l'Afrique, ça va permettre au pays de s'assumer et de contester ses propres moyens. La Finlande, c'est un pays qui est pratiquement nouveau par rapport à l'OTAN. Donc, elle est obligée de se manifester pour montrer, son adhésion, marquer son empreinte et montrer sa rigueur et son adhésion à l'OTAN.
Monsieur Ngom, comment évaluez-vous ces actions de l'Occident?
Beaucoup de pays occidentaux, ce qu'ils veulent, ce n'est même pas la condamnation de la Russie, mais ils veulent que les Africains s'alignent derrière leur position. Or, les Africains, pour des raisons d'ordre historique, n'ont plus envie de s'aligner. Les Africains ont opté pour le non-alignement. Le non-alignement, ça ne suppose pas qu'on n'a pas de jugement, qu'on n'a pas d'évaluation, on n'a pas la capacité d'évaluer la réalité. Voilà, les Africains, donc ce n'est pas la peine, à mon avis, de les menacer chaque fois de sanctions. Je pense que si les Africains avaient peur de ces sanctions, ils se seraient alignés derrière les autres puissances qui se sont déjà exprimées là-dessus. L'Afrique s'est souvent alignée, s'est alignée par la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, s'est alignée très souvent. Mais quel est l'apport de ces alignements dans l'évolution du continent africain? Mais on le voit. On le voit à travers le traitement même des immigrés. Beaucoup de pays derrière lesquels les Africains s'étaient alignés, voient se développer des mouvements contre les Africains qui sont réels, des mouvements souvent racistes ou xénophobes. Et parce que ces gens qui sont racistes ou xénophobes ne savent même pas ce que les Africains ont eu à faire pour eux.
Cette question est à nouveau à vous, Monsieur Vélé. Alors, comment interprétez-vous la déclaration du nouveau ministre finlandais de commerce extérieur et du développement qui, selon les médias locaux, a l'intention d'orienter le principal flux de soutien vers l'Ukraine et de retirer l'aide financière aux pays africains qui soutiennent la Russie?
Je pense que ça montre déjà un mépris par rapport au peuple africain. Ça montre déjà un non-respect des responsables africains. Ça montre déjà un manque de considération par rapport à notre autonomie et notre indépendance. Ça montre déjà que le partenariat est à sens unique. Donc, leur partenariat est dans d'autres fins, d'autres finalités. Leur partenariat est dans le cadre vraiment de leur propre intérêt et non dans l'intérêt des Africains. Et pour moi, ce n'est ni légitime, ni humain, ni solidaire, et c'est purement du néocolonialisme. Et cette pratique est connue, les méthodes de répression pour maintenir les gens dans cette souffrance, amener les peuples africains ou certains pays dans leur logique. Et les peuples africains ont actuellement assez de recul par rapport à cette pratique. Tout partenaire qui ne respecte pas, comme on dit, la souveraineté d'un pays, tout partenaire qui ne respecte pas les choix stratégiques d'un pays dans ses relations de partenariat, tout partenaire qui ne respecte pas les intérêts de ton peuple, on ne doit pas coopérer avec ses partenaires. Et je pense que cette leçon est claire chez nous. Et je sais que dans la sous-région, les gens ont déjà commencé à prendre conscience et les gens vont aller à l'encontre de ces pratiques, forcément, les mois à venir, les années à venir.
Monsieur Vélé a qualifié ce discours de néocolonialiste. Alors, j'aimerais bien vous demander, Monsieur Ngom, êtes-vous d'accord avec cette désignation?
Mais bien sûr que ça relève du néocolonialisme et du chantage. Parce que d'abord, moi, je ne sais pas, peut-être que moi, je n'ai pas des chiffres de l'aide de la Finlande par rapport à l'Afrique, hein, je ne sais pas. Ou est-ce qu'il parlait au nom de la Finlande ou il voulait parler au nom du camp occidental? Mais je crois que ce refus vraiment de s'aligner a été exprimé très clairement aux Nations Unies par beaucoup de pays africains. Et ils l'ont exprimé par rapport d'ailleurs au conflit de l'Ukraine. Donc le ministre de Finlande, ce qu'il dit, peut-être il le dit parce qu'il n'a pas vraiment bien suivi les déclarations successives des chefs d'État africains pour comprendre que cette façon de faire ne marche pas dans les nouvelles relations internationales. Mais qu'il parle au nom de l'OTAN ou qu'il parle au nom de l'ensemble du monde occidental, ça ne peut plus marcher. Les gens, ils veulent utiliser cette affaire de l'Ukraine pour penser qu'on peut changer le nouvel ordre international dans ce sens. S'ils veulent que le pays rentre dans l'OTAN, c'est magnifique, c'est bien, s'ils ont envie de... Mais ça veut dire que l'Afrique ne s'occupe plus de ça. Ce n'est pas le problème de l'Afrique. L'essentiel, c'est que nous puissions évaluer nos intérêts.
C'était Ali Di Agali Vélé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, et Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine. Notre intervenant dans cette édition spéciale de l'Afrique en marche consacrée au Forum économique international de Saint-Pétersbourg est la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie russo-tunisienne à Tunis, Madame Christina Romanenko, spécialiste également de la diplomatie culturelle et sociale. Nous évoquerons avec elle le rôle de la culture dans le renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et la Russie et les opportunités de leur extension à la coopération scientifique, technologique et économique. Écoutons-la. Ma première question, vous étiez tout à l'heure donc l'un des speakers de la session concernant justement à la diplomatie culturelle, à la diplomatie sociale aussi, et c'était consacré à la question des leaders, des jeunes leaders, et comment ils pourraient participer justement dans le rapprochement des cultures. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de ce concept-là et comment vous le voyez? Et après, on passerait éventuellement sur ce que vous faites, le fait concrètement en Tunisie.
Avec plaisir. Et tout d'abord, je dois remercier l'Assemblée du peuple d'Eurasie. Je dois les remercier parce que je suis là grâce à leur invitation. Et pourquoi moi? Parce que moi, je suis le lauréat de premier grade de la concours leader diplomatie du peuple qui est tenu en 2022, ça fait 6 mois. Et moi, j'ai présenté projet pour consolidation des femmes russophones vivant en Tunisie. C'est très important aujourd'hui, c'est très important de faire la consolidation des peuples russophones. En Tunisie, l'atmosphère est très positive pour nous, pour les Russes. Et les peuples tunisiens sont très, très, très amicaux pour nous. Il faut dire que la Russie, c'était le premier pays qui a connu l'indépendance de la Tunisie. Ça fait 67 ans déjà. Et moi, en tant que présidente de la Chambre de commerce, c'était mon idée d'installer une allée d'amitié tuniso-russe. Et ça fait 2 ans, on a préparé, on a installé cette allée. avec une plaque commémorative en marbre, écrit en russe et en arabe. Maintenant, déjà 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? On fait le subotnik, on fait du nettoyage. Beaucoup de Tunisiens sont intéressés.
C'est-à-dire des opérations de bénévolat.
Bénévolat, oui.
Pour le nettoyer, par exemple.
C'est une allée à peu près de 100 mètres. Et on a planté 50 arbres. Et maintenant, chaque année, on rajoute de nouveaux arbres. Et pourquoi? Parce que moi, je suis la coordinatrice du bénévole de la Victoire, en plus, en Tunisie. Et vous êtes au courant qu'on a une action qui s'appelle Jardin de la mémoire. Et c'est quoi l'objectif de ce jardin? Objectif pour planter 27 millions d'arbres dans tout le monde entier. C'est 27 millions, c'est égal à 27 millions de soldats et des peuples qui sont morts pendant la guerre de la Deuxième Guerre mondiale.
Des voilà. Peuples soviétiques qui sont morts durant la Deuxième Guerre mondiale. OK. Ma deuxième question, Madame Romanenko, est-ce que il y a le président Poutine, ça fait une dizaine ou une quinzaine de jours, il a pris la décision d'augmenter massivement les programmes de coopération scientifique et technologique, c'est-à-dire des échanges d'étudiants, d'ouvrir des programmes d'aide aussi, des bourses pour dans des formations d'ingénierie, de sciences fondamentales. Est-ce que il y a ce genre de travail là-bas en Tunisie?
Cette initiative sera réalisable en Tunisie. Ouais. Parce que le niveau des étudiants tunisiens sont en très haut niveau. Oui. Parce que l'ingénierie en Tunisie est très bonne. Mmh. Donc j'espère qu'on peut réaliser cette initiative. Vraiment, ce sera très bien.
C'est-à-dire pour envoyer des étudiants tunisiens
en Russie, oui,
en Russie.
Oui. Et les étudiants russes en Tunisie, pourquoi pas? Parce qu'on a beaucoup de choses à avoir en Tunisie, à part les scientifiques, le secteur scientifique, on a des choses historiques. Et n'oubliez pas qu'on a l'histoire en commun entre la Russie et Tunisie, c'est notre escadre russe. Ça fait 100 ans en arrière, 6000 Russes qui sont arrivés à Bizerte. C'est une petite ville au nord de la Tunisie. Donc on a beaucoup de choses en commun.
Oui.
Donc pourquoi pas faire la continuation?
Oui, d'accord. La question suivante que j'aimerais vous poser, Madame Romanenko, en votre qualité de présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie russo-tunisienne, il y a un projet commun très important entre l'entreprise tunisienne Telnet et son partenaire russe. Ils ont lancé un projet de 30 satellites, une constellation de 30 satellites qui seront fabriqués en Tunisie. C'est-à-dire que la Tunisie met le pas dans le carré des grands, comme on dit, alors entre dans le cercle des grands ou le club des grands, et elle va y est, donc développer sa propre technologie spatiale. Mais en plus de ça, il y a le projet d'envoyer la première femme arabe dans l'espace avec Roscosmos, et ça sera une Tunisienne. Alors, où est-ce qu'on est toutes ces choses-là? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour éclairer nos amis et nos auditeurs africains qu'il n'y a pas que des choses négatives dans ce continent, il y a beaucoup de choses positives qui se passent, même si on n'en parle pas beaucoup?
Oui, c'est vrai. On a commencé, je parle en tant que Tunisienne, ouais. Maintenant, on a commencé ce projet avec le holding Telnet, et c'était très significatif. Le lancement du premier satellite, c'était en mars 2021, juste après 60 ans de...
Au 60e anniversaire du premier vol spatial de Yuri Gagarin.
Voilà, donc c'était en 2021. Et en plus, c'était le 22 mars, je pense. Bon, le 20 mars, c'est la journée d'indépendance de la Tunisie, mais on a commencé le 22 mars. Et après quelques mois, le 13 août, C'est très significatif aussi parce que c'est la journée de la femme tunisienne. On a signé le contrat avec Roscosmos pour lancer la femme, première femme arabe en
première l'espace. Femme arabe cosmonaute.
Cosmonaute, oui. C'est avancé. Il y a, je pense, 8 femmes qui sont sélectionnées déjà, les 8 femmes pilotes. Et maintenant, suite à la situation mondiale, c'est un peu stoppé, mais c'est en train de
développer. Se faire doucement, de se faire.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
C'était Madame Christina Romanenko, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie russo-tunisienne à Tunis. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.